Ok, allez, on va démarrer. Donc, je me présente rapidement. Je suis Cyril Duchamp. Je suis journaliste à l'agence de presse AEF. Donc, j'ai la lourde responsabilité d'animer la fin de journée. C'était une journée quand même très fructueuse. Moi, j'y étais depuis le début, depuis la première heure. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je trouve qu'il y a une très grande cohérence. Je sais pas ce que vous en pensez. On a démarré avec des états de l'art de la formation Tour de la Vie dans les établissements d'enseignement supérieur, en particulier les universités, qui étaient vraiment particulièrement bien dressés et intéressant et complémentaire à la fois par Rachel Marie Pradail Duval qui a fait un constat très complet, Anne Aubert également, et puis évidemment le dialogue avec François Germinet qui était très intéressant. Et puis tout de suite on s'est retrouvé dans des sessions de travail. Alors je suis passé un peu sur les trois ateliers. Ça avait l'air d'être assez fructueux avec des modalités assez différentes, mais vraiment intéressant. Donc nos rapporteurs vont nous expliquer ça. On avait donc trois ateliers, un atelier sur l'évaluation des connaissances et la certification, premier atelier, donc Pierre Buss va nous faire un retour sur les principales conclusions. L'individualisation des parcours de formation, c'était l'objet du deuxième atelier, et puis un troisième atelier qui était sous un format assez atypique, mais j'avoue que j'étais très très séduit, et Patricia Gounon nous en parlera, c'était sur l'impact sur les pratiques et sur les acteurs. Voilà, juste pour... deux choses. Un, donc mauvais rôle, je dois tenir la montre de manière très serrée parce que nous avons pas mal de personnes ici qui viennent de régions, qui ont fait des déplacements, donc il ne s'agit pas pour elles de rater le train. Donc on va terminer la table ronde à 16h30 précise. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose qui a été bien dite ce matin, mais je me permets de le redire, c'est effectivement une journée de travail. Donc l'enjeu, c'est évidemment d'identifier les grands sujets, les grandes thématiques, faire un peu de prospective, etc., mais aussi et surtout peut-être d'émettre des propositions très concrètes. Le ministère, visiblement, attend impatiemment des retours de votre part. Donc des propositions très concrètes pour faire évoluer les choses et faire que la formation Tour de la Vie soit un sujet totalement, complètement emparé par les universités. Je laisse la parole tout de suite à Pierre Buss sur l'atelier « L'évaluation des connaissances » et la certification. Il y a eu pas mal de débats, je crois, Pierre. Est-ce qu'il y a eu des positions de consensus? Est-ce qu'il y a eu des différends?
Alors, on n'en est pas venu aux mains.
C'est une bonne chose.
C'est déjà pas mal.
Il y avait quand même une joute orale entre les deux ateliers.
Hein. Oui.
Je ne les partagerai pas.
À un moment, oui, il y a eu quelque chose comme ça. Bon, donc j'espère que je vais me faire la voix fidèle des gens qui ont participé à l'atelier. Sinon, s'ils pourront hurler, ils auront forcément raison. Je vais essayer de vous faire la restitution selon différents points, ce qui semble avoir fait consensus, ce qui a fait plutôt débat, et puis quelques points de choses qu'on pourrait retenir. Mais bien sûr, en amont de tout ça, on a discuté de plein de choses et de comment est-ce qu'on faisait chacun de notre côté, dans chacun de nos établissements, pour essayer de trouver des modes d'évaluation qui soient un petit peu plus innovants, un petit peu plus adaptés. On parle de formation dédiée, mais quand on parle de formation dédiée à la formation continue, bah, il faut aussi se poser la question de l'évaluation dédiée à la formation continue. Et ça peut poser des questions. Est-ce qu'on a idéologiquement ou pas des réticences sur cette idée de dire on va faire différemment avec un public ou un autre? Bon, voilà, c'est un peu tout ça dont on a discuté, y compris même de est-ce qu'on peut aller vers de l'examen surveillé à domicile de l'étudiant? Si oui, comment? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change des choses pour nous? Est-ce que ça change des choses pour l'étudiant? Là-dessus, on a des éléments de réponse qui peuvent être apportés. Alors, ce qui semble avoir fait consensus, c'est que, plus encore, quand on est dans une disposition de formation tout au long de la vie, il faudrait qu'on aille vers des évaluations qui aillent dans l'approche compétence. Et que la compétence, c'est vraiment quelque chose qui est attendu par les apprenants, par les financeurs de la formation continue. Donc vraiment, il faut essayer de faire quelque chose de plus massif encore qu'aujourd'hui sur la question de l'évaluation et de l'approche par compétence. Ce qui a fait consensus aussi, c'est que dans ce débat sur l'évaluation dans la formation tout au long de la vie, il y a plein de pots de bananes partout qui sont des termes qui sont on ne peut plus ambigus. Certification est ambiguë. Est-ce qu'on certifie des contenus ou est-ce qu'on certifie la personne qu'on évalue? Évaluation est ambiguë. Est-ce qu'on évalue des étudiants ou est-ce qu'on évalue des formations? Évaluation et examen, c'est pas tout à fait la même chose. Examen et diplôme, c'est pas tout à fait la même chose. Et on peut se dire que quand on fait de la VAE, on fait bien de la diplomation sans du tout faire d'examen. Donc toutes ces questions-là mériteraient une espèce de cartographie lexicale, quelque chose qui permette un petit peu d'y mettre du clair. Et puis, est-ce qu'on peut faire de la même façon ou de différentes façons entre des publics de formation continue ou initiaux, ça c'est plutôt un consensus, on se dit qu'on peut faire différent et qu'on n'a pas de réticence à vouloir absolument faire des choses qui soient différentes en fonction des publics. Et puis autre élément de consensus, quand on est en train de se poser la question de l'évaluation, même déjà quand on est en train de se poser cette question-là, et même pas tout le reste, il y a déjà la question du modèle économique qui intervient. Et on ne peut pas aller vers le changement d'échelle si on ne résout pas la question du modèle économique. Alors ça, c'était pour les éléments de consensus.
Alors ça, c'est le consensus, ça permet de faire la base pour avancer. Et avancer, alors, ça veut dire lever les différends.
Le débat, là où on ne s'est pas franchement mis d'accord, est-ce qu'on peut faire de la formation continue en faisant que du contrôle continu, ou est-ce qu'il faut quand même maintenir au bout un contrôle terminal ? Ça, il y avait vraiment des avis partagés. Je vous laisse la question ouverte pour vous occuper jusque tard le soir. Autre question, la question de l'alignement pédagogique. Quand on parle d'alignement pédagogique, c'est est-ce que c'est l'approche pédagogique qui définit les modalités d'évaluation, ou est-ce que ça peut aussi être le contraire, les modalités d'évaluation induisent une approche pédagogique. Et ça, là-dessus, trancher la chose dans un sens et pas dans l'autre, ce n'est pas quelque chose qui a été consensuel, donc il y a vraiment encore débat là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir ? On va retenir une proposition déjà qui a été faite, c'est qu'on a tous à voir, et ça touche à la question du modèle économique, à interagir avec des OPCA. Les OPCA qui sont les organismes financeurs de la formation continue. Et les OPCA ont tous des pratiques et des exigences par rapport à nos déroulés de formation qui sont différentes. Donc il faudrait harmoniser ça, faire une journée avec une espèce de représentation de tous les OPCA, si tant est qu'elle existe, et se mettre d'accord avec ce niveau de l'harmonisation pour savoir comment on pratique dans les établissements. Des points de vigilance, je vous l'ai dit tout à l'heure, des termes ambigus. Des modèles économiques qu'on maîtrise mal. Des points de vigilance aussi, attention, formation continue, ça veut dire qu'il faut bien être clair sur les prérequis, les objectifs. Est-ce que les objectifs ont valeur contractuelle ou pas ? On a même discuté de ça, c'était assez rigolo. Maintenant, pour y arriver, il y a des leviers. Les leviers sont ceux qui doivent nous être utiles pour pouvoir faire le changement d'échelle attendu dans le rapport Germinet. Et évidemment, vous me voyez venir, le numérique est évidemment un levier qu'il faut mobiliser pour faire de la formation continue, formation tout au long de la vie, beaucoup plus massifiée qu'actuellement. Et par rapport à la VAE en tant que première entrée dans un dispositif de formation tout au long de la vie, on pense qu'il faut la simplifier et on pense qu'il faut mettre du numérique là-dedans aussi pour simplifier et pour vraiment amener une démarche réflexive d'évaluation de ses compétences. Et pour ça, l'outil rêvé, c'est le portfolio, qui est plus une démarche et un processus réflexif qu'un outil numérique. La finalité n'est pas dans le numérique, elle est dans ce qu'on fait avec. Voilà, je pense que...
Super, merci beaucoup Pierre. Là, on a vraiment une richesse au niveau de la matière. Il y a beaucoup de propositions. Éric Castex, alors vous allez rester en plus sur la table ronde, donc je vais vous demander de faire un peu plus court. Pour ensuite revenir dessus quand on aura un peu de temps. Allez-y.
Donc moi, j'étais sur l'atelier...
Sur l'individualisation des parcours.
Individualisation des parcours, exactement. Donc on est parti de nombreux exemples d'un peu partout en France, pour faire ça court. La première question qui était posée, c'était comment on accueille une demande d'individualisation. Donc là, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, cet accueil, il est différencié si on est un public formation initiale et si on est un public formation continue, si on est d'un adulte en reprise d'études, ou si on est un jeune qui arrive à l'université. Et donc là, on a l'illustration d'un exemple qui s'est bien passé à Brest, qui est ce qu'on appelle un guichet unique, qui a simplifié la démarche pour tout le monde, à la fois pour le public accueilli, mais aussi pour l'entreprise qui est mieux informée sur les capacités d'individualiser les parcours. Voilà, donc on a tendance à observer que ces guichets uniques sont des idées qui sont reprises par les établissements qui fusionnent en ce moment, qui envisage ce même type de format.
Ça, c'était une position consensuelle dans votre groupe ? Ou c'était un retour de...
C'était assez consensuel.
D'accord.
Oui, okay. Oui. Il y avait à la fois un retour d'exemple qui était conforté par des illustrations complémentaires.
D'accord.
On a beaucoup travaillé en interaction avec beaucoup d'exemples. Hein.
Oui,
je ne vais pas les citer en détail, mais voilà.
Alors, qu'est-ce qui a pu poser des... Peut-être pas des problèmes, mais en tout cas, qui a été sujet à discussion ?
Alors, ce qui était sujet à discussion, c'est à la fois les modalités pour organiser la reconnaissance de validation, oui. C'est-à-dire comment mieux accueillir une compétence, comment valider, comment créditer. Donc là, il y a des questions en fait à réfléchir, en particulier d'améliorer l'accréditation, en particulier dans le cadre d'une validation d'acquis de l'expérience. Donc ça, c'est plutôt un travail à accomplir. Il y a de l'inspiration à trouver sur l'exemple de ces créditations qui sont faites dans le cadre des modalités de formation continue dans le monde privé, qui maîtrisent a priori un peu mieux le format que nous. Il y a la question de comment on évalue les ECTS en validant des compétences, trouver une modalité plus naturelle, plus simple. Les modalités aussi de partager des expériences par rapport à ça. La question est posée aussi de comment suivre un parcours, comment c'est dans un établissement et poursuivi dans un autre, comment mettre en cohérence les parcours de formation équivalentes, mais qui ne sont pas forcément reconnus de la même façon d'un établissement à l'autre. Donc le consensus viendrait du fait qu'aujourd'hui, donc, il y a le format de construction des formations tend à s'harmoniser, c'est le cas en particulier pour les licences, et c'est en travaux actuellement pour les masters. Un message qu'on aimerait faire passer, c'est qu'il est souhaité d'améliorer la lisibilité des aides, des aides de l'information pour l'individualisation offerte. Il faudrait peut-être améliorer l'information donc, au public étudiant en particulier sur le site du ministère, rubrique formation, peut-être d'accord. En regroupant d'une manière uniforme toutes les aides proposées, par exemple. Voilà.
D'accord. Mais ça, je crois d'ailleurs que c'est un des points qui a été abordé dans le cadre de l'atelier 3. Vous avez terminé sur l'atelier 2, à peu près ?
À peu près.
D'accord. Bon, de toute façon, on pourra y revenir lors de la table ronde. Je suis désolé. J'ai vraiment le rôle ingrat. Hein. Atelier sur l'impact, impact sur les pratiques et les acteurs. Patricia Goudon, expliquez-nous un peu le format que vous avez retenu, qui est quand même très innovant, ou en tout cas atypique.
Comme on avait l'impact des acteurs enseignants, étudiants et services dans l'utilisation du numérique dans le cadre de la FTLV. Donc en fait, on a constitué 3 sous-groupes. On a constitué un jeu de rôle. Donc nous avions créé avec Anne 3 personnages. Nous avions Martine qui est ingénieur pédagogique, 35 ans, Yacine, 25 ans, étudiant, et Albert, 57 ans, professeur d'université. Donc par exemple, on mettait un contexte. Donc je vous présente la fiche d'Albert. Donc je suis Albert, 57 ans, je suis professeur des universités en physique quantique. Je souhaite utiliser le numérique dans ma pratique pédagogique, mais je n'y connais rien. Je dispose d'une multitude de contenus pédagogiques sous diverses formes, polycopiés, transparents, exercices, articles, livres. Je me suis engagée à créer un SPOC dans le mois prochain et je suis perdue. Donc du coup, on avait une présentation pour chaque personnage et avec au dos de la carte, des questions communes, fil rouge, sur qu'est-ce que le numérique, comment l'utiliser, quel est l'intérêt pour mon activité, et puis des questions qui étaient liées au personnage. Et donc, du coup, y a eu des échanges très, très intéressants. On était 27 personnes réparties sur 3 groupes, et les échanges ont été très, très, très intéressants et très, très riches.
Je peux témoigner, je confirme. Voilà. Je suis passé, c'était très studieux.
Oui, on avait eu du mal à finir.
Oui.
Donc, sur les points abordés par rapport à cet atelier-là, donc je vais vous présenter le point de vue par rapport à chaque personnage. Donc, Yacine, les points qui ont été abordés sont l'accompagnement, le coût, la mise en œuvre, l'évaluation de sa formation, la valeur du diplôme, puisque Yacine, lui, voulait suivre une licence en physique quantique à distance. Donc, il dit la valeur du diplôme est importante parce que je peux continuer en master. L'accessibilité de la formation en totalité, besoin de présentiel. Et puis, est-ce que je vais être tout seul ? Donc, c'est la grande question que se posait Yacine. Ensuite, on a eu Martine qui va accompagner Albert dans la réalisation de sa numérisation. Alors, il était question d'accompagnement, effectivement, de terminologie, finalité de la formation, on parle de certification, les compétences de l'enseignant, la typologie du public cible, et puis le coût, puisque comme on est FTLV, ce qui est ressorti, obligation de résultat. Oui. Ensuite, Albert, donc les points abordés sont le modèle économique, la scénarisation, la rémunération, la demande de soutien, quel est le rôle de l'enseignant, la mise à jour de son cours, l'animation pédagogique et le droit d'auteur. Ce qui a fait consensus pour Yacine, c'est le besoin de conseils, projet en lui-même, la faisabilité du projet. Est-ce que mon projet est réalisable? Est-ce qu'il tient la route? Est-ce que je vais avoir le temps imparti pour faire ma formation? Mon positionnement, l'éventualité d'une validation, l'accompagnement, la mise en œuvre. Il y a les aspects administratifs et financiers. Quelle démarche? Quel coût? Est-ce que je peux être boursier? Quel type de financeur? De financement, quel suivi, quel soutien par rapport à ma formation, quels sont les prérequis que je dois avoir pour suivre une formation à distance, le niveau d'autonomie académique, technique, le temps imparti et l'investissement en termes de temps. Et il y a aussi l'évaluation et la qualité de la formation qui m'est proposée. Ce qui a fait consensus par Martine, en fait, il y a eu très peu de consensus. Pour Albert, il y a eu 4 points sur ce consensus, la plus-value du numérique, le soutien, les contraintes et les craintes. Alors rapidement, si j'ai le temps, sur les gains par le numérique, c'est l'aspect financier, la visibilité, qui puisse dégager du temps pour sa recherche, la montée en nouvelles compétences, la réalisation plus facile pour d'autres cours, du suivi pour plus de suivi pour les activités, les évaluations, le retour en termes de qualité de la formation. Sur le soutien, c'est d'être accompagné par un service subtil et les équipes, un chargé TD, une équipe pédagogique, la formation aux outils et puis les usages pédagogiques. Et puis la question qui se pose aussi, Albert, c'est qui va venir me filmer pendant mon cours aujourd'hui, par exemple. Ça a été évoqué. Pour les contraintes, il y a le délai de mise en œuvre, le délai de conception, de production, de scénarisation du scénario pédagogique. La contrainte par rapport à l'existant ou les futurs contenus pédagogiques, quelles sont les méthodes qui vont être utilisées, les outils d'évaluation, est-ce qu'on est en auto-évaluation entre pairs, est-ce qu'on fait une évaluation en présentiel, le public distant avec des contraintes, dont les publics empêchés. Et puis sur les craintes, il se pose des questions sur son niveau académique de son cours, le droit d'auteur, l'accessibilité est visible de tous de son cours sur l'environnement pédagogique. Quelle animation je vais mettre en place et aussi pédagogique à distance, et puis quelle posture je vais avoir, et puis aussi la crainte pour son poste.
Ok. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui ont émergé?
Alors, j'ai ce qui fait débat, mais je peux faire le proposition.
On va essayer de si c'est possible.
Ce qui a fait débat. Ce qui a fait débat pour Yacine, c'est la fracture numérique en termes de matériel, de connectivité. Aussi, le coût. Est-ce qu'il va y avoir un surcoût à suivre une formation à distance? Et puis, la question qui s'est posée, c'est est-ce que je suis en formation initiale ou en formation continue? Pour Martine, la terminologie. Pour Martine, justement, il y a eu de gros débats. Et ça, en fait, nous pensons que c'est en fait. Ce qu'on constate, c'est que dans les universités, il y a une multitude de servistes très différents, avec des rôles très différents, des conseillers pédagogiques, des ingénieurs TIS, des ingénieurs pédagogiques. On n'utilise pas la même terminologie. Et du coup, il y a des pratiques différentes, des services qui sont plus des services de production ou de formation, ce qui a généré beaucoup de débats dans ce groupe-là, sur notamment la terminologie, sur les SPOC, les MOOC, les FOAD, où il y avait des points de vue totalement différents. La vision de l'accompagnement aussi de l'apprenant, par qui et comment, qui était aussi très, très débattu. Et puis, qu'est-ce que la montée en compétences d'un enseignant? Est-ce que c'est du bon sens sur les usages ou l'acquisition de nouvelles compétences? Par contre, pour Albert, il n'y a pas eu de point de divergence. Alors, les propositions. Alors, pour Yacine, c'est d'avoir un accompagnement de... Alors, Yacine... Ouais.
Accompagnement des étudiants.
Alors pour Albert surtout. Alors les propositions sont surtout pour Albert où il veut être accompagné dans son projet d'un point de vue méthodologique, du soutien, de la formation et de la contractualisation. Voilà. Ensuite.
Il y avait le besoin de rassurer, je crois, pour les étudiants.
Oui. Alors les points de vigilance, pour Yacine. Les points de vigilance, c'est de sa mise en situation professionnelle. Quelle modalité? Parce que dans notre contexte, Yacine est sportif de haut niveau, il travaille, il a des enfants. Donc il y avait plein de choses par rapport à ça. Des contraintes, valeur du diplôme, délai pour l'obtention du diplôme, de quelles ressources pédagogiques il va disposer, quelles activités on va lui proposer, les poursuites possibles d'études. Et puis Albert, le temps passé est nécessaire pour faire ses contenus, le cours scénarisé pour le numérique, et puis l'attente. Alors, Il y a eu aussi les attentes des cibles FTLV spécifiques par rapport à la FI. Donc il y a beaucoup encore, au niveau de la terminologie, on voit beaucoup que pour certains, FTLV égale FC uniquement. Et puis, Martine, il y a eu... C'était surtout du débat en réalité. Et puis, pour Albert, des leviers aussi, c'est de distinguer les usages des outils qu'on va utiliser, développer les compétences sur la FTLV au plus grand nombre, valoriser et reconnaître son métier. Et la FTLV, pour lui, est un levier par rapport à, sur un aspect financier aussi et visibilité.
Super. Écoutez, merci beaucoup. C'est un exercice vraiment difficile. On peut les applaudir, effectivement, parce que vraiment, ils le méritent.